France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. C'est un papier de Christophe André dans le numéro en kiosque de Cerveau et Psycho qui a inspiré cette émission, les monastères, nouveaux refuges pour cerveaux surmenés. Coup de projecteur donc ce matin sur le succès des retraites spirituelles, chrétiennes, bouddhistes ou laïques, les abbayes et les monastères qui connaissent une hausse des demandes et des profils de retraitants de plus en plus variés et souvent éloignés de la foi catholique, nous rappelait la croix en 2024. Nous verrons quels sont les bienfaits psychologiques et cérébraux de ces retraites spirituelles, et puis comment vivre une spiritualité sereine chez soi, dans une sorte de retraite intérieure, alors que nous connaissons depuis des décennies des crises qui se succèdent et s'amplifient dans tous les domaines, nous dira l'une de nos invitées, Flavia Mazelin-Salvi. Et vous, avez-vous déjà fait une retraite spirituelle? Racontez-nous ces bienfaits au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France en laissant message et note vocale. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Bah, j'y retourne l'année prochaine. Ouais.
Aujourd'hui, je pars à midi avec le sourire, avec des yeux nouveaux, avec le soleil dans ma tête, la clientèle se pointer.
J'entrevois maintenant cet espoir, en fait. Un espoir que je n'avais plus.
J'ai envie de dire aux gens, mais venez à Très-Saint, quoi. Vous êtes croyant, venez à Très-Saint. Vous vous retrempez dans cette eau vive. Si vous n'êtes pas croyant, mais venez voir un peu ce que c'est, quoi. Parce que vous allez être bluffé par le sens qu'on peut donner à une vie, quoi.
Je me souviendrai de cette retraite.
Extrait du documentaire « 6 jours qui changent une vie » de François Lespèce en 2016. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, avec en couverture un dossier consacré aux effets du jeûne sur le cerveau, et dans ce numéro également un papier du psychiatre Christophe André consacré au monastère. Bonjour Stéphane Bataillon.
Bonjour.
Vous êtes poète, grand reporter à la Croix l'Hebdo, et vous avez écrit un livre consacré à votre retraite spirituelle, « Les heures décisives » chez Desclés de Brouet. Bonjour François Boédec, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes ancien
Merci.
Provincial des Jésuites de la province d'Europe occidentale francophone et vous êtes vice-recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Bonjour. Absolument. Flavia Mazelin-Salvi.
Bonjour.
Vous êtes autrice et vous publiez au courrier du livre « Divine conscience, vivre une spiritualité libératrice et transformatrice ». Stéphane Bataillon, je le disais, les abbayes et les monastères connaissent une forte augmentation des demandes pour faire des retraites de quelques jours, de quelques mois. Il existe même une sorte de Airbnb des séjours en monastère qui s'appelle « Retreat » et que notre ami Thierry Lhermitte, bonjour Thierry Lhermitte,
bonjour,
ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, est en train de compulser.
Absolument. Hein, vous êtes en train des thèmes passionnants.
Par exemple
Spiritualité et poterie.
Voilà.
Que j'ai bien aimé.
Donc voilà, c'est un site qui est en vogue chez les personnes qui recherchent des retraites spirituelles. Et la Croix nous dit même que c'est le vendredi entre 21h et 23h que le nombre de visiteurs augmente en flèche. À l'époque, c'est parce que la chaîne C8 diffusait un programme de télé-réalité « Bienvenue au monastère ». Alors évidemment, le succès des retraites spirituelles déborde cette émission de télé-réalité. En 2021, ce site enregistrait 2400 demandes. En 2022, le chiffre monte à 16 625 demandes. Et en 2023, c'est l'explosion, 51 387 demandes sur ce site. Comment vous l'expliquez-vous, Stéphane Bataillon, de façon très globale, très générale?
Très globale, je pense que le Covid a provoqué un basculement qui fait que ce rêve un peu qu'on avait tous de partir en retraite, s'isoler du monde pendant quelques jours, voire plus, est devenu beaucoup plus facile, a dépassé beaucoup les cloisons des religions. Aujourd'hui, tout le monde peut, grâce à des sites comme Retreat, par exemple, commander assez facilement, décider de partir en retraite, voir un peu ce qui est proposé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une manière de vivre une expérience de déconnexion qui séduit beaucoup, et beaucoup de jeunes.
François Boédec, comment vous expliquez ce boom, cet essor des retraites spirituelles, religieuses et laïques?
Je crois que faire une retraite, c'est précisément se mettre en retrait, et que nos vies, nous le voyons bien aujourd'hui, elles sont quand même très souvent bien denses, pleines de tensions, pleines de bruit aussi, et qu'il y a vraiment dans notre société aujourd'hui, c'était le cas déjà par le passé, mais sans doute que c'est encore plus vrai aujourd'hui, un grand besoin d'espace de silence pour se retrouver, pour se poser, se reposer, pour faire le point de sa vie, pour envisager parfois des choix, et aussi, j'ai envie de dire, de la bienveillance. Et je crois que dans les monastères, il y a beaucoup de bienveillance de la part des communautés qui accueillent et qui aident à vivre ces moments importants de ressourcement.
Flavia Mazzolin-Salvi, cette essor des retraites spirituelles, c'est une tendance qui accompagne l'essor du développement personnel, hein, notamment chez le public en recherche de soi. C'est ce que nous rappelle Isabelle Jonvaux, une sociologue spécialiste de la vie monastique.
Oui, on commence en général, on a commencé il y a 10-15 ans avec le développement personnel. Et ensuite, il y a eu un développement qu'on pourrait appeler le développement spirituel. C'est une sorte de prolongation logique, enfin, pour ceux qui ont la fibre, qui ont cette aspiration à la spiritualité. Et c'est vrai que c'est un mouvement, les retraites, cette appétence pour les retraites qui est quand même, qu'on voit monter depuis plusieurs années, parce qu'au fond, il y a très peu d'endroits dans notre société qui ont quand même une culture très matérialiste, on va dire, voire aussi athéiste. Il y a cette aspiration à ce plus grand que soi en soi qu'on va finalement chercher, essayer de connecter dans des lieux qui sont faits pour.
C'est quoi la spiritualité, en quelques mots, Flavia Mazzolin-Salvi?
Alors c'est vrai que c'est un mot valise maintenant, c'est un peu un mot auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte, mais je fais une différence entre une spiritualité de confort qui est la prolongation du développement personnel, qui va être, je fais un peu de méditation, je me relaxe, je fais du yoga, du jeûne, etc. C'est une spiritualité donc qui correspond à notre partie non fonctionnelle, non utilitaire, où à la fois on se fait du bien et puis on cherche un peu confusément autre chose, hein, du sens. Et puis une spiritualité qui est vraiment la vie de l'esprit au sens de l'âme, qui est vraiment là un besoin de vivre et de se vivre et de se concevoir en tant qu'être, comme pas seulement un corps et un psychisme, hein, comme le décrit le sociologue Fromager, qui est professeur à Caen. Il dit la structure binaire classique, un corps et un psychisme, avec tout ce que comprend le psychisme, et puis la structure, ce triptyque qui est le corps, l'esprit et l'âme. Mmh. Donc voilà, il y a deux spiritualités, et dans les centres spirituels et les retraites, on trouve ces deux types de populations.
Sébastien Boller.
Oui, cette distinction est intéressante. Christophe André, dans l'article qui signe dans Cerveau et Psycho, commence justement en faisant le constat que les monastères étaient dédiés à la spiritualité et au salut de l'âme, et bon, qu'ils ont vu leur fréquentation pour ces motifs s'éroder, mais qu'aujourd'hui ils récupèrent, ils sont en quelque sorte recyclés pour remplir des besoins que vous appelleriez peut-être des besoins de spiritualité, de confort, ou qu'on va appeler dans les sciences cognitives des problèmes attentionnels, résoudre des questions de charge cognitive, de stress, et qui parfois viennent en fait panser des plaies et même une détresse psychique. C'est peut-être parfois plus que du confort, mais sans pour autant être de la spiritualité au sens traditionnel. Donc c'est très intéressant. Et tout l'angle du papier, c'est de se dire peut-être que les monastères qui autrefois étaient dédiés à la pure spiritualité, au salut de l'âme, vont aussi sauver quelque part des dommages qui ont été provoqués sur les psychismes et sur les cognitions dans notre monde moderne.
Et vous y reviendrez tout à l'heure, Sébastien Boller. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Au menu de votre toute dernière chronique de la saison, quoi neuf docteur?
Eh bien, dans une émission consacrée à la spiritualité, on va aborder un sujet très terre-à-terre.
Oui.
D'où viennent les mauvaises odeurs corporelles? Comment s'en débarrasser? Et je vous révélerai une cause méconnue, mais quand on l'a, il faut vraiment faire le diagnostic, de mauvaises odeurs corporelles qui ne passent pas malgré un nettoyage, malgré des douches répétées. Et c'est un vrai problème médical qu'on abordera.
Bonjour, rebonjour Thierry Dermite.
Bonjour.
Vous avez déjà interprété un moine? non ?
Non, on m'a proposé de faire le père de Foucault.
D'accord.
Pour vous dire.
Tous les mois, vous visitez un laboratoire de recherche au nom de la Fondation pour la Recherche Médicale, dont vous êtes l'un des ambassadeurs les plus investis. Quel labo avez-vous visité ce mois-ci ?
Un laboratoire à Bordeaux qui étudie l'influence des nanoparticules sur notre santé.
Vous retirerez au couvent de San Ignacio.
Ali Rebéi.
Vous ferez vœu de chasteté.
Grand bien vous fasse.
Et de pauvreté.
Ah non, pas de pauvreté, sire.
Sur France Inter.
Pourquoi les retraites spirituelles nous font du bien, c'est notre thème ce matin avec Cerveau et Psycho. Stéphane Bataillon, je rappelle que vous êtes grand reporter à la Croix, l'Hebdo et auteur des Heures décisives, ma première retraite au monastère. Comment ça se passe quand vous annoncez à votre femme que vous allez faire une retraite Alors, vous avez toujours rêvé d'être dans le retrait des moines hein.
Oui, c'était un rêve comme ça. Je pense qu'on l'a tous eu un jour, de se dire finalement j'aimerais... Juste être obligé de couper avec la frénésie de la vie quotidienne.
Et cette retraite née d'un vieux rêve, née dans l'épreuve à la mort de votre première épouse à l'âge de 30 ans.
Oui, tout à fait. On a passé, elle est hélas partie d'un cancer. On a passé presque 2 ans à l'hôpital. Et une fois qu'hélas elle est partie, je m'étais dit... un deuil, c'est toujours plein de choses à gérer à la fin. Et je m'étais dit, je vais partir une fois que tout ça sera réglé. Je ne l'ai pas fait, parce que la vie a repris son cours. Mais j'avais toujours cette idée-là en tête. Et ma seconde épouse, qui me connaît bien, m'a dit, d'accord, mais tu reviens, surtout.
Elle avait peur que vous ne reveniez pas.
Oui.
Alors, vous vous retirez au monastère de Landévennec, dans le Finistère, en Bretagne. Pourquoi ce choix ?
Par la rencontre durant mon travail de reporter d'un moine poète, Gilles Baudry, le frère Gilles, qui est à Landévennec et dont j'apprécie beaucoup la poésie, qui m'avait dit un jour viens nous voir, viens essayer. J'ai profité d'une idée de reportage après le Covid justement pour essayer de voir comment on vivait dans un confinement volontaire. Donner un peu des pistes au lecteur. Voilà, et je suis arrivé avec une sorte de naïveté, de d'émerveillement
et
premier.
Et de peur aussi, vous avez peur d'avoir faim, d'avoir froid.
Et de peur. De peur. J'avais vu un film qui s'appelait Le Grand Silence, un très beau film, mais très dur, qui montrait la vie des moines plutôt âgés. Voilà. Alors qu'on arrive au monastère, on est toujours séparés un peu des moines. On mange dans le même réfectoire quand on est un homme, mais on ne vit pas quand même une vie de moine. Et ça, on s'en rend compte assez vite.
Comment ça se passe ce premier jour, ces premiers repas, cette première nuit dans votre cellule ?
Eh bien, une sorte de... Effectivement, de bienveillance, mais qui se joue dans une sorte de froideur de l'accueil, où on vous montre votre chambre, on vous dit c'est là, et vous avez les horaires des offices, donc les prières... On n'est pas obligé d'y aller, mais effectivement, pour vivre l'expérience complètement, c'est... Voilà, on est vraiment en liberté dans ce lieu clos, mais qui en fait permet de s'ouvrir de prendre le temps de s'ouvrir à soi-même pendant quelques jours.
François Boédek, je rappelle que vous êtes jésuite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui sont tentés par une première expérience de retraite monastique ? Pour justement lever certaines appréhensions, certaines peurs.
Oui, bon, d'abord, j'ai envie de parler aussi de mon expérience personnelle, parce que depuis j'ai une soixantaine d'années maintenant, mais depuis l'adolescence, je suis en lien avec un monastère qui m'a vraiment accompagné dans toutes les étapes un peu de mon existence. Au début, j'y venais quand j'étais étudiant, voilà. Et puis, j'étais à l'hôtellerie, j'étais accueilli. Et puis, petit à petit, j'ai tissé des liens avec les moines, avec un moine en particulier, qui a été mon père spirituel pendant de nombreuses années. Et puis, je me suis rapproché de la communauté et je suis venu très, très régulièrement à l'abbaye. C'est également une abbaye en Bretagne. La Bretagne est une belle terre. C'est l'abbaye de Timadoc. C'est des trappistes, c'est des cisterciens. C'est-à-dire, c'est un ordre monastique catholique qui a été fondé à Citeaux, d'où le nom, au XIe siècle, et qui insiste sur la simplicité de vie, le travail manuel, la prière. Et petit à petit, jusqu'à l'an dernier, où j'ai été accueilli pendant près de 4 mois, J'ai partagé la vie des moines à l'intérieur de la clôture, donc plus seulement à l'hôtellerie. Et pour moi, c'est un lieu de très grande liberté. La communauté m'accueille, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, avec beaucoup de bienveillance, mais où il est possible pour moi de faire un chemin qui est un chemin personnel. Je ne ressens aucune, je dirais, contrainte, bien sûr celle de partager la prière et la vie des moines. Mais pour le reste, le chemin intérieur, il est dans une grande liberté intérieure.
Des contraintes. Un mot sur la règle de Saint-Benoît, quand même. Ce texte du VIe siècle qui organise la vie du monastère.
Oui, exactement. Il y a des contraintes, mais c'est au service d'une expérience intérieure. Et évidemment, par rapport, on a évoqué tout à l'heure le terme de spiritualité qui est un peu large. Il peut y avoir des spiritualités sans Dieu. André Comte-Sponville, le philosophe, avait beaucoup parlé de la spiritualité sans Dieu. Ici, dans le cadre des monastères chrétiens, on est évidemment tourné vers le Dieu chrétien, vers Dieu qui se révèle dans la prière. Et donc, les moines, finalement, ils offrent ce qu'ils ont de mieux, la simplicité de l'accueil et leur prière. Et on s'installe dans leur prière. On n'a pas besoin d'être des grands priants, mais de se poser et on se laisse porter par la prière des moines. Et ça, peut-être petit à petit, comme des eaux souterraines dans nos vies, eh bien, il y a quelque chose qui, finalement, petit à petit, prend vie. Voilà.
Flavia Mazzolin-Salvi, autrice de Divine Conscience, vivre une spiritualité libératrice et transformatrice.
Oui, il y a aussi dans les retraites monastiques deux plaisirs particuliers qui sont de l'ordre un peu de l'idéal. Alors, pour en avoir fait quelques-unes, j'y ai trouvé le plaisir et le réconfort d'une communauté éphémère. Vous voyez, où on se retrouve avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, mais pas de manière uniforme, avec des différences, c'est pas une secte. Donc il y a quelque chose de particulier, c'est pas des collègues de travail, c'est pas des amis, mais il y a une espèce d'intimité très discrète, on peut échanger brièvement, mais quelque chose comme ça de particulier, de retrouver une sorte de famille informelle. Et il y a aussi, et ça j'en avais discuté avec plusieurs personnes, il est réconfortant aussi de voir dans des communautés monastiques que c'est une utopie qui marche. On vit ensemble avec nos différences, avec des inconnus. Il y a une consommation et une production locale, la sobriété, la frugalité. Et au fond, ça offre pour quelques jours une expérience de cette fameuse vie alternative, de ce fameux monde d'après dont on avait beaucoup parlé après les confinements. Et on voit que ça marche.
Stéphane Bataillon.
Oui, je pense que les contraintes dont on parlait tout à l'heure, c'est moins le lieu, ce sont des lieux généralement beaux. L'abbaye de Landévennec en Bretagne, c'est magnifique, donne sur la mer. C'est plutôt les contraintes de temps. Les contraintes de temps, une journée rythmée par les offices, des repas à heure très fixe où on ne parle pas. Et c'est justement ces contraintes qui permettent la rencontre, qui permettent, entre ces temps, de reprendre conscience que 2 heures, c'est 2 heures. Et on va aller rencontrer les gens qui sont là, leur parler, respecter leur silence parfois, parce qu'effectivement, certains sont vraiment là pour être en silence, ont besoin de ce silence. Et on commence à échanger des choses qu'on n'échangerait pas avec des inconnus dans un autre cadre.
Est-ce qu'on peut faire une retraite spirituelle dans un monastère catholique sans être croyant ?
Oui, bien sûr. Justement, cet accueil inconditionnel est une des chances et une des forces aussi de ces lieux et de toute cette spiritualité qui est justement, on ne pose jamais de questions. Enfin, moi, en tout cas, on m'a pas posé de questions pour savoir si j'étais croyant.
Sébastien Boller, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. J'aimerais qu'on s'arrête sur une enquête dans un monastère bénédictin canadien auprès de 521 personnes qui effectuent une retraite pour un temps de séjour limité et pour des raisons personnelles. Et il y a 4 motivations principales qui émergent.
Oui, la première, effectivement, c'est un souci de se mettre à l'écart du monde tel qu'on le vit au quotidien, avec les obligations professionnelles, le rythme de vie qu'on connaît, les sollicitations permanentes, pour se couper du monde contemporain. Ça, c'est la première motivation. La deuxième est plus, on va dire, intime. Il s'agit de retrouver une sorte de paix intérieure. Les gens parlent du fait de se ressourcer, de retrouver quelque chose de profond en soi. Une troisième motivation, c'est la recherche de beauté et de sérénité. Se retrouver dans un lieu qui inspire le calme, qui inspire l'émerveillement, qui inspire la contemplation. Et puis la dernière motivation, la quatrième, donc, c'était quand même le désir de cultiver ou de retrouver une vie spirituelle. Donc là, c'est ce qui ressort. En fait, c'est un peu la seule enquête scientifique dont on dispose à ce jour. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais elle vient du Canada. Oui.
Et précisons qu'il s'agit des mêmes motivations dans d'autres formes de retraite, comme les séjours d'immersion dans la nature. Stéphane Bataillon, sur ces quatre motivations, se mettre à l'écart du monde, s'apaiser, se ressourcer, être imprégné dans un lieu beau et serein, cultiver ou bien retrouver une vie spirituelle.
Je pense que c'est deux choses. C'est un repos. On vient d'abord pour se reposer, pour faire le point. Et ensuite, la spiritualité vient. C'est-à-dire qu'on, petit à petit, en laissant de l'espace en soi, en s'autorisant soi-même à se laisser, à s'abandonner un peu, quelque chose d'autre dans ce lieu-là, très particulier, arrive, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, et c'est une question de transcendance, donc après on met les mots qu'on veut dessus, mais quelque chose au fil des jours commence à éclore, comme une chaleur qui vient un peu offrir une dimension un peu différente à nos existences. Je crois que c'est peut-être ça, c'est plus une émotion qu'une réflexion, mais l'arrivée d'une spiritualité ou revivifier un peu la spiritualité qu'on a tous et qu'on... Dans ces vies complètement connectées, en fait, on n'arrive plus peut-être à l'entendre ou à la ressentir, mais il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que moi, j'avais, et comme les autres d'ailleurs, il faut vraiment couper le portable, il faut vraiment couper l'ordinateur pour s'autoriser ça, en fait. C'est vraiment un cadeau aussi qu'on se fait à soi-même.
Professeur Boris Ancel ?
Oui, j'ai une question toute naïve. Est-ce que tout le monde supporte cette déconnexion ? Parce que certains d'entre nous, on est hyperactifs. On a un peu de mal à imaginer cela. On peut se dire, je vais essayer. Ouais. Mais une fois qu'on est dedans, est-ce que tout le monde supporte ou est-ce que certains n'arrivent pas finalement à se déconnecter ?
Alors, ça dépend du type de retraite, je pense. Il y a plein de retraites. Il y a des retraites avec activité. Il y a des retraites en retraite total silence. Moi, ce n'était pas le cas dans l'abbaye bénédictine. En fait, il y a des salles où on peut parler avec les autres retraitants. Certes, dans d'autres spiritualités, bouddhistes par exemple, il y a des retraites en silence total. Donc ça, effectivement, ça dépend aussi de son état. C'est vraiment une relation. C'est une relation entre cet extérieur inédit et ses sensations internes, ce qu'on apporte aussi à l'intérieur du monastère.
Boris Ancel, j'ai du mal à vous imaginer en silence total.
Mais je réfléchis depuis tout à l'heure, c'est déjà une première étape.
Oui, c'est aussi l'aventure, c'est aussi l'expérience.
François Boïdec, jésuite.
Oui. Oui, effectivement, c'est une aventure, je crois que le mot vient être dit. Par rapport aux motivations des gens qui viennent à l'abbaye, on a insisté sur le fait de se mettre à l'écart du monde. Moi, je suis frappé à travers les personnes que je peux rencontrer dans les monastères ou ma propre expérience, de voir que le monde, à la fois, on le laisse et on le retrouve aussi au monastère. Mais on le retrouve totalement différemment, finalement. On retrouve le monde, mais sous une autre manière. Et on peut envisager son rapport au monde, lorsqu'on va sortir du monastère, sous un autre mode, qui est peut-être un mode où il y a plus, effectivement, de temps pour soi, plus de gratuité. Finalement, ce que les moines, par leur vie, indiquent, c'est un peu une manière de vivre, une direction. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, la source va être du côté du Dieu révélé par Jésus-Christ. Mais c'est quelque chose qui est bien adapté pour aujourd'hui par rapport à tous les discours sur le pouvoir, sur l'avoir, sur le paraître, sur la simplicité, la sobriété de vie. Finalement, on retrouve le monde au monastère, mais de manière différente. C'est pas une coupure totale. C'est le monde qui nous est redonné autrement. Et je suis toujours frappé par les moines. On a l'impression qu'ils sont dans leur monde complètement à part, à côté de la plaque. Pas du tout. En fait, et ça se voit notamment au moment des temps de prière, des prières universelles, les moines prient pour le monde. Et ils sont en permanence en train de porter les souffrances, les questions, les angoisses de notre société. Et on voit qu'on est bien au cœur du monde quand on est au monastère.
Bonjour Gonelle Boulet, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueuse dans cette émission, rédactrice en chef de Poppy Pomme d'Api et de Pomme d'Api Soleil. C'est un magazine d'éveil à la fois pour les 4-8 ans. Vous avez fait une retraite spirituelle récemment dans l'abbaye trappiste de Timadoc. C'était pas la première fois. Ça commence quand vous êtes au lycée, Gonelle Boulay. Une retraite dans une abbaye au Bec-et-Loing, dans l'Eure. Racontez-nous les motivations de cette première retraite monastique quand vous êtes au lycée.
Ben oui, moi j'étais au lycée, j'étais en Seine-Saint-Denis, dans un lycée public, mais on avait une super aumônerie très vivante, voilà, où on se retrouvait principalement avec les copains. Et puis dans ces propositions, effectivement, on nous a proposé d'aller en abbaye. Donc nous on y allait plutôt pour être avec les copains. Hein. Et voilà, et pour moi ça a été un choc profond. C'est-à-dire que j'ai découvert à la fois l'absolu. On parlait tout à l'heure d'utopie qui marche. Moi c'est quelque chose qui m'a frappé, voilà, de voir ces gens qui consacraient leur vie à la prière. Tout à coup, ça me tombait dessus et je trouvais ça assez fou. Et c'est vrai que l'adolescence est un âge où on est un peu en recherche d'absolu, donc ça me parlait. Et puis, j'ai découvert, ce que disait exactement François Boédec juste à l'instant, j'avais une vision des moines éloignés du monde, mais en fait, j'avais l'impression d'avoir des gens qui veillaient sur le monde. C'est vraiment ça qui m'est apparu à cet âge-là. Et qui m'a poursuivi après, c'est-à-dire que où que je sois, j'avais ce sentiment qu'il y avait des gens qui veillaient sur le monde. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et puis du coup, j'y suis retournée pour réviser mon bac à l'époque. Mm-hmm. Je me suis un peu isolée. C'était pas très à la mode hein, dans les ados de l'époque. Mais voilà, j'avais trouvé un lieu. Je savais que j'avais un lieu où aller pour réviser, pour être calme. Et j'ai fait cette expérience effectivement de cette espèce de vide habité. Et j'entends moi je suis une grande bavarde dans la vie, j'ai beaucoup besoin de relations, etc. Donc franchement, j'ai envie de le silence, c'est pas forcément fait pour moi. Et en même temps, voilà, c'est cette aventure petit à petit d'avoir ce vide, de s'y confronter, et puis de savoir comment j'habite tout ça. Et voilà, moi ça a été une expérience assez fondatrice. Et effectivement, j'étais retournée en l'occurrence voir François Boédec, qui était un grand ami et qui nous avait invités à Timadoc pour refaire une expérience. Et c'est vrai que se lever à 3h du matin dans la nuit et le silence de la nuit, pour au début on se dit mais qu'est-ce que je fais là, faut pas se dire que c'est facile hein. On se demande un peu ce qu'on fait là, et en même temps voilà, on se laisse bercer par ses prières, on sait pas trop comment l'habiter. Mais c'est une expérience qui est très puissante.
J'aimerais qu'on accueille Lopon Trinlet-Tanzin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes moine bouddhiste, coprésident de l'Union bouddhiste de France, aumônier hospitalier et poète, comme Stéphane Bataillon. Nous avons beaucoup parlé des retraites dans les monastères chrétiens. Qu'en est-il des monastères bouddhistes ? Racontez-nous un petit peu si on veut faire une retraite dans un monastère bouddhiste.
Eh bien, écoutez, c'est un petit peu la même chose. Ce que je peux dire peut-être, c'est que faire retraite dans un monastère bouddhiste comporte peut-être 4 niveaux de retraite. On parle d'une retraite extérieure, d'une retraite intérieure, de la retraite au niveau plus intime ou secret, et de la retraite ultime. Mmh. Et par rapport à l'importance qu'on accorde à cela, je dirais, dans les retraites, il y a une forme de fraternité qui est présente hein, au sein d'un monastère, fraternité ou sororité. Et puis, il y a un exemple auquel je pensais qui est en Thaïlande, où il y a une sorte de service monastique obligatoire, comme le service militaire, où les jeunes sont appelés, les jeunes hommes surtout, à devoir passer un an au monastère et prendre les vœux monastiques pour quelque temps. Et c'est comme une sorte de responsabilité, je pense aussi, de faire une retraite, une responsabilité personnelle et intérieure. Et ça me fait penser à une citation de Marcel Proust hein, qui disait « Nous faisons toujours passer avant la besogne intérieure que nous avons à faire le rôle apparent que nous jouons. » Et dans la tradition bouddhiste, on parle beaucoup de l'intériorité, en fait. Mmh. Et c'est vrai que la retraite nous permet de nous recentrer, de nous re-questionner aussi sur le sens de la vie, justement par rapport à la mort aussi. La retraite, on pourrait dire, c'est un petit peu mourir au monde, c'est se retirer du monde, ou en tout cas renoncer au monde. ce qui n'est pas forcément confortable ou évident. Et je pourrais citer l'exemple d'un ami qui me disait un jour, j'aimerais bien faire une retraite dans un monastère chrétien ou bouddhiste, mais j'ai très peur de devoir lâcher mon téléphone portable. Mmh. Donc ça implique des renoncements, effectivement, de faire une retraite.
Comment trouver la bonne retraite? Comment ne pas tomber sur un gourou? Ça peut exister. Comment ne pas tomber dans une retraite sectaire? Comment on s'y prend, Lopon Trinlet-Tanzin? Est-ce qu'il y a un annuaire des retraites fiables? Comment ça se passe si j'ai envie de faire une retraite là, mais je suis un peu perdu devant l'offre de retraite spirituelle bouddhiste, en l'occurrence?
Alors, en l'occurrence, je pense au niveau du bouddhisme, il y a des grands centres bouddhistes qui proposent des retraites, mais ils ne sont pas si nombreux que cela. Et il y a différentes traditions, donc je pense que en cherchant par exemple sur l'annuaire des centres bouddhistes qui est proposé sur le site de l'Union bouddhiste de France, vous trouvez des références qui sont tout à fait convenable. Après, ça dépend aussi de la demande de la personne, de ce qu'elle attend. Et parfois, il peut y avoir des attentes qui ne vont pas correspondre à ce que les personnes vont trouver dans ces centres bouddhistes ou dans ces monastères. C'est possible. Et puis, je dirais, une retraite doit toujours commencer avec une juste motivation et surtout sans, nous on dira dans la tradition bouddhiste, sans espoir et sans crainte. S'il y a trop d'espoir, il risque d'y avoir déception. Et il faut pas non plus avoir trop peur et trop de crainte. C'est la vie. Tout à l'heure, j'entendais dire que la vie dans un monastère, c'est comme un monde, un autre monde. Dans le bouddhisme, on dira le monde en général, c'est le monde noir, et le monde des monastères, c'est le monde blanc. Mais c'est encore le monde.
Stéphane Bataillon.
Oui, je pense que c'est important de. C'est pas seulement éteindre son portable, c'est aussi être prêt, et on ne l'est pas forcément quand on vient en retraite, à rencontrer des autres. Je pense que, à la différence de méthodes de développement personnel où on vient avec notre ego qu'on va soigner avec des recettes, on vient effectivement avec ses problèmes, mais très très vite, on prend comme rarement conscience de l'importance de l'autre et du monde.
Flavia Mazzolin-Salvi.
J'ai envie de dire que les retraites monastiques, c'est aussi le lieu de la surprise. Les bouddhistes zen disent, pour qualifier un état d'esprit sans but ni esprit de profit, et il faut se laisser surprendre. On peut vouloir aller souffler et puis on va être touché par la grâce. On peut aller vouloir se réparer et puis on va être la personne qui va aider ou réconforter d'autres. Et moi, j'accompagne des gens en psychosomatique, spiritualité, et donc j'aimerais parler d'un monsieur qui est un haut fonctionnaire qui est juste parti en retraite pour souffler et qui littéralement a vécu un éveil spirituel bouleversant qui a changé beaucoup de choses dans sa vie matérielle concrète, et il s'attendait à tout sauf à ça puisqu'il voulait juste se déconnecter. Donc vraiment se laisser surprendre par l'esprit des lieux, par cette énergie, puis par la tradition aussi qui est proposée.
Vous parliez de déconnexion, Flavia Mazzolin-Salvi, une belle transition avec Sébastien Boller. J'aimerais qu'on revienne sur les bienfaits des retraites spirituelles, des retraites qui peuvent favoriser la restauration de l'attention. Alors que nous vivons sans doute l'un des plus grands raptes de l'attention de l'histoire de l'humanité, avec les écrans et les géants de l'industrie technologique qui nous volent notre attention. Et ces retraites spirituelles permettent donc de favoriser cette restauration de l'attention.
Oui, il y a un courant de recherche scientifique depuis quelques années qui pose la question des retraites spirituelles, des retraites dans les monastères, en lien avec cette théorie de la restauration de l'attention. Alors qu'est-ce que c'est ? La théorie de la restauration de l'attention, elle a été lancée il y a maintenant presque 40 ans au départ par un psychologue qui avait remarqué que en fait l'attention dont le cerveau humain est capable se déploie idéalement dans des milieux naturels. C'est évident parce que l'être humain, il a vécu pendant 2 millions d'années dans la nature, et la fonction de l'attention, c'est de repérer au milieu d'un environnement naturel qui est relativement pauvre en informations, à bas bruit, des stimuli qui vont être pertinents pour survivre. Et donc notre attention, elle s'est calibrée pour être bien, comme ça, sur un mode un petit peu veille flottante, dans un milieu naturel où il n'y a pas des trucs qui clignotent dans tous les sens, pour repérer de temps en temps, de façon très dynamique, très ciblée, des stimuli pertinents pour la survie. Et c'est ça notre héritage attentionnel. Et le problème, c'est que d'un seul coup, en quelques siècles, on a basculé dans une société où il y a des écrans lumineux, des alertes SMS, des fils d'informations continues, des notifications, et tout ça, ça vient surcharger notre attention. Et donc, on vit dans un monde de surcharge attentionnelle, avec des enjeux commerciaux. On sait très bien que celui qui arrive, enfin, l'entreprise qui arrive à capter votre attention va retirer ensuite des dividendes de tout ça. Donc, on est la proie de toutes ces stimulations attentionnelles, et on finit par craquer. On a parlé pendant les dernières années de la surcharge mentale, le fait qu'on n'arrive plus, qu'on a des to-do lists, qu'on a l'attention fragmentée par les téléphones, et ainsi. Et au bout d'un moment, on ne sait plus finalement que faire de notre attention, où focaliser notre attention. Et donc la restauration de l'attention, c'est de se dire, il y a des milieux qui sont pacifiques et restaurateurs pour l'attention, il y a la nature, et puis on se rend compte qu'il y a aussi ces lieux de retraite où il y a du silence, il y a peu de stimulation, il y a un temps qui est scandé, on met le téléphone à l'entrée dans une boîte et on le retrouve plus. Et donc l'attention retrouve son rythme naturel. Et c'est extrêmement précieux et ça permet de aussi refocaliser son attention vers les autres, comme vous le disiez, et vers soi-même, vers ce qui se passe à l'intérieur. Ce que propose aussi la méditation. La méditation, c'est l'art de savoir rediriger son attention qui a tendance à dériver pour voir quels sont les mouvements intérieurs de notre âme, toutes les pensées qui nous traversent.
Stéphane Bataillon, c'est ce que vous avez ressenti notamment?
Oui, tout à fait. Et avec la force aussi du collectif, alors que ce soit les moines ou les retraitants, en fait, quand je vous entends parler de méditation, c'est vrai que des fois, on se dit, je vais me mettre à méditer, puis ça dure, ça dure 15 minutes, et puis on a du mal à en faire une seconde séance. Là, on est vraiment aussi porté dans ce temps-là, par l'énergie et par la motivation des autres aussi, qui sont là pour les, pas forcément les mêmes raisons que nous, mais en tout cas peut-être en recherche de la même chose.
Et vous l'expliquez bien dans votre livre, l'une des grandes leçons de votre retraite spirituelle, c'est de ne pas heurter l'autre avec des paroles à l'emporte-pièce, c'est ce que vous expliquez.
Tout à fait. Je pense qu'on vient partager des choses intimes très très rapidement, mais on ne connaît rien de la personne, de ses croyances, et c'est important aussi d'apprendre, comme disait Gwenaëlle, à arrêter de parler un peu.
Merci en tout cas Gwenaëlle Boulet d'avoir témoigné, ainsi que Lopon Trinlet-Tanzin et François Boédek. Il l'a dit, il ne fera jamais de retraite spirituelle, enfin pour l'instant, le professeur
Je confirme, Ali.
Professeur Boris Ancel. Quoi de neuf, docteur?
Ah voilà, ça me le fait là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Et c'est votre toute dernière chronique de la saison, mon cher Boris. D'où viennent donc les mauvaises odeurs corporelles et comment s'en débarrasser?
Alors, c'est vrai qu'on peut sentir mauvais, mais ce qu'il faut préciser, c'est que ça peut arriver même quand on est propre. Certaines personnes en souffrent au quotidien, c'est une gêne sociale, parfois une source de honte. Et il faut savoir que derrière les odeurs corporelles, il y a des causes identifiables, il y a des solutions concrètes, et aussi, il y a quelques idées fausses, notamment au sujet des déodorants.
Alors, la mauvaise odeur, ce n'est pas seulement une question de transpiration.
Ben non! On transpire tous, c'est indispensable pour réguler notre température. Et la sueur en elle-même n'a pas d'odeur. Ce sont certaines substances qu'elle contient, notamment des protéines, des acides gras, l'urée, qui une fois libérées à la surface de la peau, peuvent être dégradées par des bactéries qui sont naturellement présentes, notamment dans des zones chaudes et humides comme les aisselles ou les pieds. Alors ce processus libère des composés volatiles qui sont responsables des odeurs. Certaines personnes transpirent plus que d'autres. Certaines ont une sueur plus nutritive pour ces bactéries, ce qui intensifie le phénomène. Alors, si on ajoute à cela le stress, des fluctuations hormonales, certains médicaments ou une alimentation très riche en soufre comme l'ail ou bien en épices, eh bien vous avez une recette parfaite pour des odeurs plus marquées.
Difficile de se concentrer avec Thierry Vermitte juste à côté sur ce sujet-là. Côté déodorants, est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on met sur la peau, Boris?
Alors il existe deux grandes familles. Les déodorants qui masquent ou limitent les odeurs en réduisant les bactéries et les antitranspirants qui bloquent temporairement la transpiration grâce aux sels d'aluminium. Alors, je vous vois venir, ces sels, oui, ils ont été accusés d'augmenter le risque de cancer du sein. Mais les autorités de santé, notamment l'Institut du cancer, et pas que, sont claires, aucun lien de causalité n'a été établi aux doses contenues dans les produits commercialisés. Ces autorités recommandent simplement de ne pas appliquer ces déodorants ou antitranspirants à base de sel d'aluminium sur des peau lésée ou fraîchement rasée, parce que là, ça peut favoriser l'absorption de l'aluminium. Alors, il y a d'autres substances, comme les parabènes, qui, c'est vrai, posent aussi question et qui sont vraiment à l'étude. C'est pourquoi je conseille concrètement de limiter l'usage des déodorants et antitranspirants au strict nécessaire, sans en faire un automatisme quotidien. Et je donnerai dans quelques instants des conseils pratiques pour éviter d'y recourir tout le temps.
Et alors donc, si rien ne marche malgré tout, on fait quoi ?
Alors d'abord, il faut consulter un médecin pour chercher une cause particulière. Et notamment, il faut penser au syndrome de l'odeur de poisson pourri. Mais non, Ali, c'est une vraie maladie, une anomalie génétique où le foie ne dégrade pas une molécule appelée TMA.
Pardon, allez-y.
De la choline. C'est dans le poisson, les œufs, certaines légumineuses. Le résultat, c'est que le TMA, qui a une odeur très forte de poisson avarié, il s'accumule et il est évacué par la sueur, l'urine ou la transpiration. Et c'est une vraie maladie dont le diagnostic doit être évoqué quand on a une odeur qui ne passe pas. Et c'est simple, une analyse d'urine spécialisée et un traitement, ça consiste à adapter l'alimentation pour réduire les apports en choline. Il y a des gens qui souffrent de cette pathologie et pour lesquels le diagnostic est fait tardivement. Bon, ça c'est très rare, il faut le dire. Et donc dans l'immense majorité des cas, il y a quelques réflexes simples qui suffisent. Un, porter des vêtements respirants en coton, se laver une fois par jour, pas plus, on l'a déjà dit, sinon ça altère la flore bactérienne qui est importante pour la peau, utiliser un savon doux, éviter les matières synthétiques qui favorisent la macération, et puis si vous utilisez des déodorants antitranspirants, utilisez différents produits parce qu'on n'est pas tous égaux sur l'efficacité, donc il faut essayer différentes choses, mais encore une fois, seulement les jours où c'est vraiment nécessaire. Et si vous souffrez de ces odeurs, parlez-en à un professionnel de santé, c'est un vrai sujet médical et il existe des solutions. Pour trouver des références scientifiques en lien avec cette chronique sur le site de France Inter, bien sûr.
Pas de questions aussi.
Thierry Lhermitte, pour cette dernière chronique de l'année, vous vous êtes rendu à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine à Bordeaux pour rencontrer les équipes de deux chercheuses qui se sont associées pour travailler sur des questions d'environnement et de santé. Muriel Toby-Brisson, qui est directrice de recherche à l'INSERM, à la tête d'une équipe intitulée « Développement et neurobiologie des réseaux neuronaux » et Marion Tissier-Raffin, qui est maîtresse de conférences en droit public et chercheuse au Centre de recherche et de documentation européenne et internationale, des neuroscientifiques associés à des juristes, c'est assez original.
Eh bien oui, en effet, la FRM soutient depuis plusieurs années des recherches sur l'impact de l'environnement sur notre santé, en associant la biologie aux sciences humaines et sociales pour une vision plus complète de la question. Alors ces équipes étudient les effets de nanoparticules métalliques sur le fonctionnement du cerveau, avec un aspect juridique qui concerne le droit fondamental à un environnement sain, l'un des piliers de la politique de santé en France.
Et quels sont les composés étudiés ?
Eh bien, ce sont les nanoparticules de dioxyde de titane, des molécules incontournables de notre quotidien. On utilise le dioxyde de titane pour ses nombreuses propriétés, coloration, filtrage des UV, etc. Et on le retrouve partout, depuis les équipements électroniques comme la télé ou les panneaux solaires, en passant par les textiles, les peintures, les emballages, jusqu'aux cosmétiques, aux dentifrices et aux médicaments. Les nanoparticules, c'est des particules qui mesurent moins de 100 nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de millimètre. C'est très très petit. C'est un millionième de millimètre, ou un milliardième de mètre. Et pour se faire une idée, entre un milliardième de mètre et un mètre, c'est la taille d'une orange comparée à celle de la Terre. Okay, c'est aussi la taille des virus.
Et donc, on est en contact permanent avec ces nanoparticules de dioxyde de titane. Je rappelle leur taille. Hein. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre.
Absolument. On est via la respiration, l'ingestion, le contact avec la peau. C'est une des nanoparticules les plus utilisées en France. Et le problème potentiel, c'est que cette très petite taille leur permet de franchir les barrières biologiques qui protègent l'organisme. Au niveau des poumons, du tube digestif, du cerveau et même du placenta pendant la grossesse. C'est pourquoi l'équipe de Muriel Toby-Brisson cherche à évaluer les conséquences chez des souris à l'exposition de doses comparables de nanoparticules de dioxyde de titane durant la gestation et l'allaitement.
Et quels sont les effets observés ?
Chez les souris sous, on constate des troubles respiratoires, des troubles de la vocalisation, de la communication, une prise de poids diminuée avec des anomalies visibles dans les zones correspondantes du cerveau. Et certains de ces effets sont même transmis à la génération suivante, même sans exposition aux nanoparticules. Alors ces résultats chez l'animal interpellent, bon, mais attention, on ne sait pas encore si on peut les transposer en santé humaine. On sait aussi qu'on élimine la quasi-totalité des nanoparticules de dioxine de titane, mais il en reste une petite fraction qui s'accumule probablement dans le foie et les reins.
Et pour l'aspect juridique, Thierry ?
Alors, considérant les risques sanitaires suspectés et les multiples sources, les juristes se sont penchés sur les réglementations en vigueur, et d'abord sur la notion d'exposome. Cette notion s'est définie dans le Code de la santé publique française comme l'ensemble des expositions sur la vie entière qui peuvent influencer sur la santé. Et il n'y a pas de définition européenne. Et du côté des nanoparticules, c'est pareil, c'est une incertitude juridique. En gros, c'est le bordel. Il y a des recommandations de la Commission européenne pour définir les nanoparticules, mais qui ne sont pas contraignantes. Et en plus, elles font débat, même parmi les scientifiques. Et de plus, les définitions, le vocabulaire varient selon chaque réglementation, et donc selon le type de produit, cosmétique, emballage, produits chimiques, pesticides, dispositifs médicaux, etc. Et la conséquence, c'est que les règles juridiques qui s'appliquent pour la mise sur le marché des produits contenant les nanoparticules sont très différentes selon ces produits et contiennent des lacunes. Alors, point positif
quand même.
Devant les suspicions sur la santé, le dioxyde de titane a été retiré de l'alimentation en France dès 2020 et en Europe en 2022. Il y en avait par exemple dans les bonbons pour les rendre brillants et dans certaines farines pour éviter les grumeaux quand on fait des gâteaux. Donc pour les cosmétiques, c'est aussi davantage réglementé. Les produits sont évalués avant la mise sur le marché et sont autorisés notamment pour les filtres solaires, mais pas pour les sprays.
Bon, alors malgré tout, Thierry, il y a encore besoin de recherche, à la fois scientifique et juridique.
Ben oui, c'est un sujet très vaste et très complexe, et en s'appuyant sur des résultats produits par leurs collègues scientifiques, les juristes travaillent aujourd'hui à proposer une définition harmonisée des nanoparticules. Le but, c'est d'aboutir à des procédures d'évaluation spécifiques pour tenir compte du cumul d'exposition tout au long de la vie. Et l'objectif final, ben, c'est de garantir l'information des citoyens et de mieux protéger notre santé et celle des générations futures.
Et la FRM, la Fondation pour la recherche médicale, s'engage très fortement derrière ces questions.
Oui, et non seulement elle finance les chercheurs, mais elle relaie aussi leurs alertes sur ces questions majeures de santé. À ce titre, il faut lire la tribune récente sur les polluants chimiques, publiée dans l'Express et accessible sur le site internet de la fondation frm.org.
Comment peut-on aider la FRM, Thierry ?
Ben, sur le site internet, en donnant directement sur internet, ou si vous voulez donner 10 euros prélevés sur votre facture téléphonique, vous envoyez le texte de SMS don au 92 300.
92 300 dons, et on peut également faire un leg à la FRM. Merci beaucoup Flavia Mazzolin-Salvi, Divine Conscience est publié au Courrier du Livre. Merci beaucoup Stéphane Bataillon, Les Heures Décisives c'est chez Desclés de Brouwer. Et merci mon cher Sébastien Boller, le dernier numéro de Cerveau Psycho est consacré aux jeunes thérapeutiques et à ses effets sur le cerveau. Et merci Thierry Lhermitte, c'est un plaisir de vous avoir tout au long de cette saison, et on vous retrouve la saison prochaine.
J'espère bien.
Rends bien vous fasse. Un podcast France Inter.